On va aller rejoindre Nelly Brière, notre stratège spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour Nelly.
Bonjour Bernard.
Exceptionnellement, tu es au téléphone parce que tu vas participer à une sorte de consultation là. C'est quoi tu
Non, je donne une formation au milieu culturel de la Mauricie.
Bon, voilà. Parce que tu es également formatrice. Oui. Alors, aujourd'hui, tu nous as préparé quelques sujets. Le premier que tu veux aborder avec nous, c'est la nouvelle plateforme Disney+. Disney+, donc, qui va venir concurrencer Netflix et puis Club Illico, puis ici.tv. Qu'est-ce qu'elle va offrir de plus, la chaîne Disney+?
Oui. En fait, c'est ça, c'est que là, tout le monde, c'est de plus, mais aussi ce qui va être de moins sur les autres plateformes, comme par exemple Netflix. Il y a comme un combat qui va se passer autour de notre portefeuille par rapport à tout ce qui est plateforme de visionnement de vidéos en continu. Mm-hmm. Okay? Parce que Disney vient s'ajouter. Il y en a d'autres d'ailleurs qui sont à venir. Hein? Il y a HBO qui s'en vient avec HBO Max. Il y a NBC qui va proposer une chaîne aussi avec Peacock. Et là, il y a Apple, Disney, le Club Illico, Apple TV, Amazon Prime Video, Crave, Netflix. Ça fait beaucoup de plateformes.
Oui.
Et ils n'ont pas tous les mêmes contenus. Disney, eux, vont proposer des contenus de Pixar, de Marvel, de National Geographic et de Walt Disney, bien entendu. Donc, ce qui est retrouvable à ce sujet sur Netflix va disparaître dans l'année pour n'être accessible que sur Disney+. Il va, comme Netflix et les autres plateformes, avoir des contenus produits par Disney qui vont être uniquement sur la plateforme. Et d'ailleurs, ils vont même avoir des séries, mais qui ne seront pas disponibles au complet. Contrairement à ce qu'on voit, par exemple, sur Netflix, là, où on pourrait s'abonner pour ce qu'on appelle « binge-watcher » toute une série au complet en l'espace d'une fin de semaine. Là, les gens font ça. On ne pourra pas faire ça avec Walt Disney, puisque la plupart des séries, ça va être on va rendre disponible un épisode par semaine. C'est un peu une façon de vous garder...
Ça, c'est poche. Moi, j'aime pas ça du tout. Non.
Sauf que les familles risquent d'être alléchées parce que c'est tous les contenus familiales qu'on va retrouver là-dessus et c'est pas très cher. Ils sont allés offrir un contenu, un abonnement 1$ de moins que Netflix, Crave et un petit peu plus cher qu'Amazon d'1$, mais ils viennent quand même être concurrentiels là-dessus.
À combien? Ils sont à combien?
Ils sont à 8,99$ par mois.
Alors que
Semaine de gratuit.
Avec une semaine de gratuit, OK. Alors que Netflix, effectivement, sont à... c'est entre 9,99$ et ça peut aller jusqu'à 16. Ouais.
Exactement, jusqu'à 17$ en fait. Mais sauf qu'avec Walt Disney, vous pouvez déjà utiliser plusieurs appareils. Donc, vous ne payez pas plus cher pour, disons, avoir presque la même capacité que Netflix à 17$. Et on peut l'utiliser justement, passer d'un appareil à l'autre. Donc, c'est les mêmes fonctionnalités un peu qu'on pourrait retrouver chez Netflix. Et l'autre avantage, c'est que tous les contenus sont téléchargeables en hors ligne. Donc, on peut, par exemple, avant de prendre la voiture avec les enfants, tout télécharger sur la tablette. Alors, je vous dirais là que leur cible, c'est vraiment les familles. Sauf que on s'entend-tu que ça commence à faire beaucoup d'abonnements à faire, là?
Ben oui, je comprends. Puis là, il va falloir à un moment donné prioriser. Il va falloir décider ce qu'on garde parce que être abonné à toutes ces chaînes-là, y a-tu quelqu'un vraiment qui va être abonné à toutes ces chaînes-là, Nelly? Honnêtement, à un moment donné, tu sais, comme moi, j'utilise beaucoup Netflix, parfois ici tout.tv, ça m'est arrivé aussi d'utiliser Illico, mais je pense pas aller m'abonner à Disney+, là. Spontanément, là, il va falloir vraiment, tu vas me dire, t'es pas dans le public cible, tes enfants sont grands maintenant.
Bon, d'accord. À moins que t'aimes les Marvel.
Ouais, mais je trippe pas Marvel, mais il y en a des Marvel sur Netflix présentement, là.
Oui, mais ils vont disparaître.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Parce que ça va être seulement sur... Puis là, c'est ça qui... En fait, ça va peut-être faire des petites tensions dans les familles. Parce que là, justement, c'est pas tout le monde qui a les mêmes goûts. Puis bon, si on a des abonnements par maison, par appareil, là, ça devient compliqué. Fait qu'on vise vraiment des abonnements par individu, finalement. Parce que là, il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir avoir l'abonnement d'HBO pour regarder les Game of Thrones. L'autre qui va vouloir regarder les Simpsons sur Disney+. L'autre qui va aller sur Crave TV regarder la série sur Catherine de Russie, etc. Donc, là, on va se chamailler peut-être. Deloitte prévoit que les familles vont dépenser près de 100$ en abonnement média total. Là, c'est tous les abonnements médias, ça inclut les journaux, les revues, etc., là, quand même. Là. Mais on peut quand même penser qu'il y en a quelques-uns de ces dollars qui vont être destinés à ces abonnements en ligne. On peut se demander aussi si ça va avoir un impact sur l'abonnement au câble, parce qu'on est quand même à 80% au Québec, hein, d'abonnés encore au câble traditionnel. Donc, c'est pas nécessairement près de mourir. C'est sûr que le club illico est relié encore à l'abonnement au câble aussi, là.
Oui, oui.
Mais si on regarde, même si les gens sont abonnés au câble, il y en a 56% qui sont aussi abonnés à des plateformes de diffusion en continu.
Oui, oui.
Et là-dessus, 40%, Bernard, sont avec Netflix. Donc, c'est vraiment lui, le géant à détrôner ici. Est-ce que Disney va arriver à leur ravir une part du gâteau? Parce qu'ils ont besoin quand même, ces plateformes-là, d'avoir un certain nombre d'abonnés pour rentabiliser leur plateforme. Fait que il y en a probablement qui vont mourir et d'autres qui vont se tailler une part de marché intéressante. Mais oui. Netflix va très clairement devoir partager une partie là, de ses revenus-là.
Donc, ceux qui sont abonnés à un site d'écoute, là, parmi les Québécois, là, il y en a 40% que c'est Netflix? OK. Qui est deuxième?
En fait, pas parmi. C'est parmi les Québécois. 40% des Québécois sont abonnés à Netflix.
Oh boy!
Donc, c'est ça. Donc, oui, c'est vraiment... après ça, il y a le Club Illico qui est à 17%. Parce que des fois, on est sur plusieurs en même temps. Là.
Oui, oui, oui.
Et Club Illico, c'est à cause de ses contenus francophones. Mais là encore, c'est ça. Ça, c'est l'autre aspect. Là, les contenus francophones, même sur Netflix, c'est pas évident.
Mais ça, c'est mon inquiétude, moi. Mon inquiétude, c'est qu'il va falloir, à un moment donné, qu'on se retrouve là... quelque part, à travers des séries qui nous ressemblent, puis qui parlent de nous, là. Puis je regarde Netflix, ça, c'est la principale critique que je peux leur adresser. Tu sais, sur Netflix, là, il y a des très, très bonnes séries, par exemple, suédoises. Il y en a une, quelques-unes, là, il y en a une très, très bonne qui était belge, j'en avais une autre très, très bonne allemande. Tu sais, les Européens sont quand même bien représentés. Moi, je trouve que quand tu regardes l'industrie, je dirais, de la créativité qu'on a ici chez nous, je pense qu'on devrait être beaucoup mieux représenté sur Netflix, là. Puis on sait qu'ils ont pris des engagements envers nous, là. Je vais pas rentrer là-dedans. Mais si Netflix veut continuer à performer, je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'ils soient un petit peu plus attentifs à ce qu'on veut, nous autres aussi, là, ici chez nous.
Non
là.
Seulement ça, c'est que quand on regarde les plus jeunes, ce qu'ils font, La plateforme numéro un pour les jeunes, c'est YouTube. Et la deuxième, c'est Facebook, pour ce qui est de la consommation de vidéos en continu. Et Netflix vient en troisième.
Et donc, quelle conclusion tu tires de ça?
Je tire de ça la conclusion qu'ils sont très peu exposés à des contenus francophones. Et d'ailleurs, on regarde là le contenu francophone baisse de beaucoup entre 12 ans jusqu'à 25 ans environ. Là, ça baisse rapidement. Parce qu'ils n'ont pas accès. Et dans une étude du Cefrio, c'est un des commentaires qui revient de la part des jeunes de 12 à 25 ans, c'est de dire « nous n'avons pas de contenu francophone accessible en ligne ». C'est la principale plainte que les jeunes font. Non. Alors, il va falloir à un moment donné qu'on trouve le moyen peut-être de faire en sorte d'obliger ou je ne sais pas.
Bien, il va falloir que les gouvernements mettent le culotte là-dessus, honnêtement, oui. Là, Nelly. Là.
D'accord.
Bon, puis ça, l'autre inquiétude que j'allais partager avec toi, c'est le fait que cette multiplication de plateformes risque de diluer la qualité. T'as pas peur de ça, toi?
Oui, non. Et non, parce que ça peut justement, la compétition peut forcer la qualité, justement. Parce que là, c'est un appel assez important, là. Puis quand on s'abonne, on n'est pas pris à l'année, là. C'est pas des abonnements comme le câble qui sont lourds. C'est facile de se désabonner, de se revirer de bord pour en prendre un autre, changer d'un mois à l'autre. Puis je pense que c'est ce que les gens vont faire. Ils vont s'abonner 3 mois sur une plateforme, surtout si Netflix conserve son concept de pouvoir regarder les séries en rafale. Alors peut-être que pendant les temps des fêtes, on va choisir la plateforme dont les contenus nous arrangent le plus parce que c'est plus familial. Puis dans d'autres moments, on va changer de plateforme pour d'autres séries qu'on veut voir. Alors, je pense que ça peut favoriser le contenu, mais pas nécessairement le contenu québécois francophone, bon. Ça c'est clair. Bon. Tant qu'on ne fera pas de mesures, tant qu'on n'encadrera pas ça, ben on risque de se perdre justement dans la mer des contenus avec beaucoup plus de moyens là, pour être produits.
OK, parle-nous du phénomène OK Boomer. D'abord, je dois dire, je suis né après 60, donc officiellement, je ne suis pas un boomer, je suis un X. D'abord,
On est dans la même gang.
On est dans la même gang, toi et moi. Mais là, il y a un phénomène chez les plus jeunes. C'est essentiellement la version « tasse-toi, mon oncle », un peu des milléniaux, non?
C'est un peu ça. En fait, ça vient de TikTok hein, comme phénomène, où justement, il y a une espèce de réaction à une vidéo d'un baby-boomer qui a fait une publication sur TikTok où il dit aux jeunes « ben soyez réalistes, vous avez le syndrome de Peter Pan, vous êtes utopique, etc. » Puis pendant qu'il déblatère, là, ça salve contre cette génération de milléniaux. Eh bien, à côté, on voit, parce qu'on peut avec deux vidéos en même temps sur TikTok, on voit une jeune fille qui écrit tranquillement sur son cahier d'école « OK, virgule, boomer ». Et ça, ça a généré des challenges où les gens ont réutilisé ce concept-là parce que c'est devenu un mime. Puis un mime, c'est une espèce d'imitation de toutes sortes de, avec toutes sortes de formes d'un même concept sur le web. Mm-hmm. Alors, on s'est mis à reprendre ça en faisant des challenges pour montrer dans quel genre de situation ça s'applique. C'est sûr que c'est particulièrement tout ce qui touche soit la technophobie ou les enjeux du climat, où on veut justement dire « OK, boomer, nous, on pense que c'est important le climat » ou « OK, boomer, ta technophobie, là, ça va faire ». C'est un peu exactement le « tasse-toi, mon oncle », mais un peu d'une manière « tu nous écoutes pas de toute manière » et qui est aussi en réaction un peu au fameux « snowflake », qui est aussi un autre mot-clé qui circule pour qualifier les jeunes de cette génération-là, de petits flocons fragiles, qui a une petite rectitude politique, puis qui réagit et qui est facilement ébranlé pour toutes sortes de raisons.
OK, mais qui a... précise, là. Le mot « snowflake » vise à se moquer des milléniaux, c'est ça?
Oui.
À dire qu'ils sont fragiles, puis que on est toujours en train de dire « Ah, leur estime d'eux-mêmes, pauvres petits milléniaux, faut en prendre soin, faut
non,
pas trop ébrasser. » C'est pas ça?
Non, sont en train de pogner les nerfs parce que ça, ça se dit pas, ça, ça se fait pas. Ils sont un peu les social justice warriors, comme on appelle.
Ah, la rectitude, pour dénoncer un petit peu la rectitude politique des milléniaux.
Les jeunes, exactement.
Ah, oui.
Alors, on dit qu'ils sont fragiles, comme un petit flocon qui pourrait facilement être détruit. Okay. Alors, on ridiculise leur sensibilité. Donc, ça fait une espèce de combat des générations. Puis là, ça a tellement pris de propension, cette affaire-là, là, parce que le New York Times a carrément fait un article fin octobre. Puis ça a généré des tounes virales super écoutées. Il y a une jeune fille qui a fait des t-shirts, des hoodies, qui en a vendu 10 000 en ligne. La vidéo sur TikTok a 922 millions de vues. Et puis là, c'est partout cette expression-là. Au Québec même, je sais pas, dans vos réseaux sociaux, moi, je l'ai vu toutes sortes de formes. Là, les gens n'arrêtent plus de l'utiliser. Ça génère de la chicane parce que il y a des représentants de cette génération-là qui font « Hey, wow, tu sais, on n'a pas tout faux. » Puis c'est de l'âgisme. Pourquoi toutes nous mettre dans le même bassin? Alors que de l'autre côté, on dit « Ben non, c'est tout à fait justifié parce que l'environnement n'est pas pris en considération. » Il y a même un sociologue là qui parle du fait que ce hockey boomer là est incarné par Greta Thunberg et qui a comme un lien avec cette espèce de figure de la génération milléniale.
L'idée ce serait de dire Greta serait le genre de personnage mettons qui pourrait utiliser l'expression hockey boomer pour dire vous savez, les plus vieux, vous nous laissez dans la misère, là, vous autres. Là.
Exact. Okay, l'ensemble de l'œuvre de Greta Thunberg est un espèce de gros hockey boomer.
D'accord, je comprends. Très bien. Ben, merci encore une fois de faire notre éducation sur ces toutes, récentes tendances, hein, parce qu'on parle de quelque chose qui date quand même de quoi, d'il y a seulement quelques semaines. Quelques mois au plus, hein?
Depuis juillet quand même, depuis juillet.
Bon.
Mais on risque que pendant le temps des fêtes, là, les adolescents pourraient l'utiliser.
Ouais.
Quoique maintenant, on en entend tellement parler que des fois, ça disparaît là, quand okay. Ça devient trop connu.
Fait que mettons qu'il y a un millénial, mettons, un de mes enfants qui dit, oui. En me regardant avec mépris, « Hey, OK, boomer. » Moi, j'y réponds, « Hey, snowflake. » C'est ça?
Fais pas ton snowflake.
Fais pas ton snowflake. Il faudrait trouver des traductions françaises.
C'est clair, mais il faudrait les rendre virales. Ouais. Fais pas ton petit flocon de neige.
Fais pas ton petit flocon de neige.
Non,
ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Je te souhaite une bonne présentation, Nelly Brière.
Et on se reparle la semaine prochaine
en
sur
studio.
Un autre sujet.
Exactement. Pardon. Merci beaucoup, Nelly. On s'arrête. Au retour, on va parler avec le policier à la retraite, Paul Laplante, de cette histoire-là que c'est Daniel Renault qui nous en parle ce matin dans la presse. Écoutez, un agent d'infiltration qui travaille pour la police a été assassin. C'est pas rien.